Radio Spirale. La chaire de recherche en mondialisation, citoyenneté et démocratie recevait le professeur de philosophie politique Dick Howard à l'occasion de la parution du livre « The Primacy of the Political, A History of Political Thoughts from the Greeks to the French and American Revolutions ». L'événement se déroulait à la librairie Olivieri en septembre 2010.
Bonsoir. Donc, au nom de la librairie Olivieri et de la chaire de recherche en mondialisation, citoyenneté et démocratie, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce débat causerie avec Dikawa. Le fonctionnement de la soirée sera relativement simple selon la tradition de ces débats. Je vais demander à deux personnes que je vous présenterai, Dominique Lédet et Augustin Simard, de commenter l'ouvrage récent de Dick Howard et de lui poser certaines questions. Dick Howard réagira par la suite et nous aurons pour le reste de la soirée une discussion avec le public, à la fois avec Dominique Lédet, Augustin Simard et Dick Howard. Donc, je vous présente très brièvement nos trois invités, en commençant par Dick Howard, qui est professeur émérite. C'est ce qui arrive quand on vieillit un peu, on devient professeur émérite. Donc, il est professeur émérite à la Stony Brook University de New York, il est l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux articles en philosophie politique, tant en français qu'en anglais. Je pense à des ouvrages comme « Pour une critique du jugement politique »,« Comment repolitiser le jeu démocratique »,« Marx aux origines de la pensée critique »,« Aux origines de la pensée américaine », « La démocratie à l'épreuve et chronique américaine et deux ouvrages en anglais que je cite comme ça, « Political Judgment and the Spectre of Democracy ». Son passage parmi nous est particulièrement lié à la publication, et on est un peu les premiers, même avant les New-Yorkais, à commenter le texte. Il est paru cette semaine. Je ne sais même pas s'il est encore rendu à New York, c'est un peu loin. Mais il est ici, donc « The Primacy of the Political ». Et donc c'est de ce texte principalement qu'on parlera ce soir. C'est une nouvelle publication qui est publiée à quelle maison d'édition que je dois... Columbia University Press. Bon, je disais donc, je pense que Dick Howard a en plus de ce travail de philosophie politique, un travail de philosophie politique que je pense qu'il y a une certaine résonance ici. Et on se plaint souvent dans les milieux de la pensée politique, dans les milieux de la théorie sociale au Québec, on se plaint de l'inexistence d'une pensée politique française, ou de l'inexistence plutôt d'un dialogue entre la pensée politique française et la pensée politique américaine. Et on peut dire que Dick Howard fait justement ce pont entre la pensée politique française et la pensée politique américaine. Il correspond donc à ce que le Québec, d'une certaine façon, aimerait être, c'est-à-dire un Américain imprégné de la philosophie politique française. Et je pense que Dick Howard, à ce titre-là, est très présent et correspond à quelque chose qui se vit ici. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que il est, pour plusieurs d'entre nous, un lecteur de la vie politique américaine. On l'entend souvent à Radio-Canada commenter la vie politique américaine avec ce regard qu'on comprend par cette capacité qu'il a et cette tradition qu'il a pu développer d'être à la fois de l'Europe et de l'Amérique, sans jamais tomber dans l'océan. sans jamais tomber dans la marge. Donc, Dick Howard parlera donc en troisième, mais on commencera par Dominique Lédet. Dominique Lédet, qui est professeur de philosophie politique à l'Université du Québec à Montréal. Dominique Lédet, qui travaille sur les questions de philosophie politique, de philosophie du droit, de philosophie de philosophie moderne, etc. Il a aussi publié un nombre de travaux sur ces questions, sur les enjeux de la démocratie délibérative, sur des pluralismes et compromis, délibération publique et raison publique. Donc, tout un ensemble de préoccupations qui touchent beaucoup d'enjeux et d'objets qui sont présents dans les ouvrages de Dick Howard. Et donc, c'est Dominique Lédet qui commentera et qui posera les premières questions. Par la suite, Augustin Simard est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Il travaille aussi sur l'histoire des idées politiques, sur les politiques et les doctrines constitutionnelles européennes, à la fois françaises et allemandes. Il est un spécialiste de ce qu'on appelle l'analyse de la réception en pensée politique. Et dans ses travaux aussi, Augustin Simard a publié des travaux à la fois sur les questions de la démocratie, les questions de la pensée politique, notamment dans l'œuvre de Max Weber, le sociologue politique, je dirais pas le philosophe politique, il pourra préciser s'il y a lieu, mais le sociologue politique de l'Allemagne du début du XXe siècle. Donc, sur ça, je laisse la parole à Dominique Lédet, qui va faire un premier commentaire à partir de l'ouvrage de Dick Howard, The Primacy of the Political. Donc, Dominique Lédet.
Alors, bonsoir. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur l'ouvrage, puisque vous n'avez sans doute pas eu la chance de le parcourir, comme moi j'ai eu l'opportunité de le lire en sneak preview, donc avant que le livre ne soit rendu disponible au public. Alors, l'ouvrage de The Primacy of the Political nous présente une histoire de la pensée politique des Grecs, donc d'Aristote et de Platon et d'Aristote, jusqu'aux révolutions françaises et américaines. Et dans sa préface, Dick Howard explique qu'une bonne partie du livre est née de son enseignement au premier cycle et aux cycles avancés de l'histoire de la pensée politique. Et la première chose que je dois dire après avoir lu le livre, c'est que ces étudiants ont eu une énorme chance. Si l'enseignement de Dick Howard a pu ressembler au contenu du livre, eh bien c'est passionnant. C'est un excellent livre, c'est une excellente manière d'entrer à l'intérieur de la philosophie politique, de son histoire, ou peut-être devrais-je dire de la pensée politique, et de son histoire. C'est un ouvrage qui ne multiplie pas trop les notes en bas de page, tout en étant tout à fait au courant des débats plus récents sur chacun des auteurs travaillés. Et donc, ne serait-ce qu'en cela, c'est un ouvrage d'une lecture tout à fait passionnante. Mais ce livre n'est pas simplement une histoire, ce n'est pas simplement une porte d'entrée à l'étude de la pensée politique. C'est également un livre qui présente un certain nombre de thèses sur le politique, sur la pensée politique, sur notre tradition philosophique et sur l'état actuel de la démocratie qui valent certainement en soi la discussion. Et plutôt que de passer beaucoup de temps sur l'exégèse de tel ou tel auteur, parce que je ne pense pas que ce serait vraiment le propos d'une rencontre comme celle-ci, je pense que ce qui est intéressant, c'est de nous attarder sur certaines de ces thèses. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est « La primauté du politique », « The Primacy of the Political », un titre sur lequel qui peut sembler un peu paradoxal, étant donné le regard à la fois sévère et pessimiste, jusqu'à un certain point, que Dick Howard pose à la fois sur notre tradition et sur l'état de la politique démocratique aujourd'hui. Mais avant de l'interroger sur ce titre et sur certaines des thèses plus substantielles qui sont dans le livre, j'aimerais faire quelques rappels, ne serait-ce que pour faciliter la discussion. Alors d'abord, commençons par une première précision. Qu'est-ce qu'on entend par « politique » dans ce livre? Alors, je traduis un passage du tout début du livre, de la page 4. Par le terme de politique, nous devons entendre donc la façon dont nous décidons de vivre ensemble et de comprendre la légitimité de nos relations sociales. Et donc le terme de légitimité, la notion de légitimité est extrêmement importante dans ce livre. Qu'est-ce qui distingue la politique démocratique ? C'est le fait que les principes de légitimité auxquels on a recours pour justifier la façon dont nous organisons notre vivre ensemble, eh bien ces principes de légitimité sont immanents et non transcendants, comme ils pouvaient l'être dans les sociétés prédémocratiques. Donc on ne fait plus référence à l'origine divine ou à la justification via l'appel à une origine divine du pouvoir politique qui s'exerce sur nous, mais on fait référence à des principes qui sont immanents à l'intérieur de la société. Alors Dick Howard met en évidence deux principes qui sont fondamentaux à la réflexion sur la légitimité des sociétés politiques démocratiques. Et ces deux principes, et c'est ça qui est intéressant, sont en tension l'un et l'autre. Ces deux principes, c'est l'égalité et la liberté. L'autre couple de valeurs qui joue un rôle clé dans toutes les réflexions de Howard sur le politique et qui sont également en tension, c'est le couple unité et diversité. L'unité politique doit, selon Dick Howard, pouvoir coexister avec la diversité sociale, avec la pluralité, le conflit. Et l'essentiel, en fait, d'une pensée proprement politique est de penser la légitimité, de penser le vivre ensemble à partir de l'acceptation de cette réalité du conflit, de cette réalité de la diversité interne et de la particularité, plutôt que de céder à la tentation de vouloir la dépasser. Donc ces valeurs, unité, universalité, diversité, particularité, égalité, liberté, sont des valeurs qui sont en tension, qui sont donc à la source du dynamisme démocratique, mais aussi qui manifestent toujours le danger d'une implosion. D'où vient alors l'autre terme qui est très important dans le livre, donc à côté du politique, c'est l'antipolitique. L'antipolitique est antipolitique dans le livre de Howard, toute politique dont le but est l'élimination du politique. Et donc l'antipolitique, nous dit Howard, est l'expression d'un paradoxe présent dans toute forme de pensée politique. Elle représente donc une forme de tentation, cette tentation étant la tentation d'une sortie hors du conflit, d'une sortie hors de la diversité, hors de la particularité, pour en arriver à un état où enfin nous serions tous heureux, tous contents, tous d'accord, tous unis, tous gentils, ça peut être le paradis pour certains, un enfer horriblement ennuyant pour d'autres, mais en tout cas, de toute façon, c'est ce qui symbolise pour Howard l'antipolitique. Alors, pour moi qui suis professeur de philosophie, le regard ensuite que porte Dick Howard sur notre tradition est un regard assez critique, puisqu'il montre comment la philosophie politique, mais je pense qu'il préfère le terme de pensée politique du reste, que cette tradition a souvent cédé à la tentation de l'antipolitique, que cette tradition a souvent cédé à la tentation de l'antipolitique, et que des auteurs comme Platon et comme la pensée post-aristotélicienne, la pensée chrestienne, la pensée d'Augustin, Hobbes, etc., sont tous des auteurs qui ont cédé à cette tentation d'un au-delà du politique, d'un au-delà du conflit, voulant nous présenter une vision de la société et d'un principe de légitimité qui, s'il était enfin mis en pratique, assurerait la fin du conflit. Dick Howard termine son livre à la fois sur quelque chose de très beau qui est la Révolution américaine, qui est la grande expérience de politique démocratique vécu, et aussi sur trois formes contemporaines, enfin ou modernes, d'antipolitique, qui sont d'un côté l'économie politique de Adam Smith, l'esprit révolutionnaire des Jacobins, et le conservatisme qu'on pourrait appeler dogmatique d'un Edmund Burke. toutes les trois formes de pensée politique qui sont coupables de vouloir, encore une fois, nous amener au-delà du politique, au-delà du conflit et de la gestion difficile de la diversité et de la particularité. Bien, du point de vue de l'expérience elle-même, et c'est là où le regard de Dick Howard se porte sur la démocratie contemporaine, et ça je pense que c'est une remarque très intéressante, Howard nous dit que peut-être qu'un des maux dont souffre la démocratie contemporaine depuis la chute du mur et depuis la fin de l'Empire soviétique, c'est le fait que la démocratie se pense comme étant évidente, d'une évidence telle qu'elle n'arrive plus à réfléchir sur ses propres présupposés et qu'elle pense pouvoir s'exporter sans réfléchir aux conditions de diversité et de particularité qui caractérisent des sociétés autres. Voilà. Donc voilà un peu, de façon très rapide, le contenu du livre. Évidemment, j'ai sauté par-dessus l'essentiel, qui sont les études extrêmement intéressantes des auteurs philosophiques particuliers. La fin du livre, le livre se termine à la fois sur un double constat, l'impossibilité d'éliminer le politique, donc le fait que ce désir de vouloir en arriver à un stade où on aurait dépassé le conflit, dépassé la diversité, dépassé la particularité, etc., qu'on aurait enfin résolu la tension entre ces couples de valeurs qui sont l'égalité, la liberté, la diversité, l'universalité, la particularité, etc., cette tentation-là est, dans un certain sens, elle est condamnée à l'échec, que la condition nécessaire, la seconde conclusion, que la condition nécessaire à l'émergence d'une nouvelle politique démocratique, c'est la redécouverte du politique comme un contexte de sens, là je cite Howard, qui fait place au conflit légitime entre les partisans de l'unité et de la diversité. Donc ça, voilà le topo à la fois. Nous ne pouvons pas faire, ce rêve est une chimère, ce rêve de dépasser le politique est une chimère, le conflit est là, il est présent. Et une des conditions de revivre une expérience politique démocratique véritable, eh bien, c'est de redécouvrir le politique comme un contexte de sens qui fait place au conflit légitime entre les partisans de l'unité et de la diversité. Et c'est pour cela que nous sommes invités à retrouver ce sens du politique à travers la lecture de certains auteurs classiques. Voilà.
Dominique, oui. Que je suis bon prof, mais vos étudiants ont de la chance. Et, ce résumé était parfait. Je n'ai rien à redire.
Maintenant, j'ai trois questions pour vous.
Évidemment.
Mais je vous remercie. Alors, j'ai quelques questions pour vous pour lancer un peu le débat, tout en disant donc je suis très sympathique. Alors, au tableau qui est brossé par Dick Howard. Alors, j'ai une première question qui est... Alors, je ne sais pas si c'était... Enfin, au fond, je vais vous demander, pourquoi devons-nous lire Hobbes? Pourquoi devons-nous lire Platon? Pourquoi devons-nous lire ces auteurs qui ont cédé à la tentation de l'antipolitique? Alors, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question... Donc, je vous disais tout à l'heure que nous prenions un verre que, alors, ma génération a été contrainte de lire Rawls du début à la fin en passant par le milieu, que vous saluez Rawls dans les premières pages de votre livre pour le laisser de côté, qu'une des choses que je me suis toujours dite à propos de Rawls, c'est que si Rawls avait gagné le débat avec Nozick en philosophie politique, puisque Rawls, vous savez, a dominé et a modifié le paysage de la philosophie politique contemporaine, il reste que sur le terrain, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus Nozick qui a gagné. Qu'une des pensées que ça a toujours suscité en moi, donc Nozick était le ponte de la pensée libertarienne aux États-Unis, et qu'une des pensées que ça a toujours souvent suscité en moi, mais c'est plus une intuition que je n'ai jamais développée, c'est que les philosophes politiques devraient faire plus d'économie. Vous me dites, vous dites dans votre livre que l'économie politique est une forme d'antipolitique. Et je comprends pourquoi vous dites ça, et votre lecture de Adam Smith est passionnante d'ailleurs. Mais je me suis demandé, une des raisons pour lesquelles la philosophie politique contemporaine semble tellement détachée parfois du réel et condamnée à la sphère des idées, mais sans prise sur le réel, n'est-ce pas sa négligence de cette réalité de l'économie? Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, vos remarques sur Aristote sont passionnantes, aussi la philosophie politique de la Renaissance, etc. Vous montrez bien comment la réflexion démocratique, ou la réflexion sur la démocratie et la réflexion sur la politique qu'on retrouve chez Aristote était évidemment attachée à un certain contexte qui était celui de la police, que ce contexte n'est plus pertinent au moment même où Aristote écrit, puisque c'est la monarchie macédonienne qui est évidemment un état territorial beaucoup plus grand que ne l'était la cité-état grecque. Et donc ça a rendu obsolète, dans un certain sens, la pensée politique d'Aristote. Et moi, je vous demanderais, puisque c'est là-dessus que clôt le livre, si on pense au défi de penser la démocratie aujourd'hui et l'expérience démocratique aujourd'hui, est-ce qu'un problème n'est pas que... mais c'est vraiment une question que je vous pose, hein, que le contexte qu'a constitué l'état territorial de la jeune République américaine, est-ce que des problèmes n'est pas que ce contexte-là est lui-même mis en cause? Et à ce moment-là, quel est pour vous le contexte d'une pensée démocratique possible pour cette mondialisation que vous signalez dans les premières pages de votre livre? Voilà.
Je vais prendre la position d'inactif bientôt. Déjà, on me fait un citoyen honoraire du Québec. Du coup, pourquoi ne pas postuler le leadership d'Éditeur Hope? Et on revient.
D'accord. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec mes questions. Je les pose pour alimenter le débat.
Non, il doit y répondre. C'est ça le jeu. tu ne réponds pas. Attends, lui va contredire ses questions, puis tu diras c'est résolu. Ok, c'est Augustin.
Merci Joseph Fillon. Merci d'être venu ici ce soir. La présentation de Dominique m'exempte de devoir vous présenter dans les grandes thèses du livre de Descartes. Je vais simplement commencer par parler de ma propre situation, qui est professeur de sciences politiques, enseignant la pensée politique. Dans des cours de première année avec 170 étudiants à 8h30 le matin et qui doit couvrir un trimestre From Plato to NATO, comme on dit dans le jargon. Et donc, fatalement, avec la nécessité de répondre à la question « À quoi ça sert la pensée politique ? À quoi ça sert la philo politique ?» Donc, je suis très heureux d'avoir pu lire ce livre parce que ça me permet non seulement d'enrichir mon cours, les étudiants vont en bénéficier, mais aussi ça me permet de clarifier un peu pour moi-même à quoi ça sert la philosophie politique ou la pensée politique, et aussi pour le clarifier un peu à mes étudiants. Ce qui donc nous mène directement à la question de ce soir, à quoi sert la philosophie politique, que j'interprète plutôt comme étant à quoi sert l'histoire de la philosophie politique ou l'histoire de la pensée politique, tant il est vrai que Descartes nous présente ici une histoire de la philosophie politique. Une histoire, comme Dominique l'a mentionné, qui n'est pas simplement une évolution, le récit d'une évolution de la pensée politique, mais qui est organisée par une intrigue extrêmement forte, une intrigue qui est en fait le flux, je dirais, le reflux de ce que Descartes appelle l'antipolitique. Et donc Descartes part, comme Dominique l'a mentionné, d'une définition du politique qui est assez particulière, qui est largement, je crois, héritée de Arendt ou d'autres penseurs du même genre, qui met l'accent sur donc la pluralité, le conflit, la délibération, hein, l'agir commun du multiple, si on veut, et partant de cette définition, fait un lien très étroit avec la démocratie, pensée comme, je dirais, le régime de l'interrogation, le régime d'une interrogation incessante, hein, qui habite la société, et pour aboutir à finalement cette idée que la politique est toujours donc à la fois quelque chose de polymorphe, quelque chose d'indéfini, mais quelque chose qui ne peut pas être illimité. quelque chose qui a forcément des limites, même si ces limites ne peuvent pas être définies a priori. Et la tentation de l'antipolitique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est cette tentation de définir a priori les limites de cette expérience politique. Alors, c'est finalement la tentation qui habite le fait que ces limites sont à la fois nécessaires mais plastiques, hein, nécessaires mais fuyantes, mais nécessaires mais mobiles. Donc voilà en gros l'intrigue qui organise l'histoire de Dick Howard, enfin l'histoire qu'il nous propose. Et c'est un peu la clé, j'allais dire la clé herméneutique qui lui permet de proposer ces différentes interprétations là, tout à fait intéressantes et pertinentes qu'il nous propose dans ce ouvrage des grands penseurs du canon. Mais je voudrais plutôt attirer l'attention en fait non pas nécessairement sur la pensée démocratique qui est sous-jacente à l'entreprise comme Dominique l'a fait, la question de l'utilité de l'histoire de la pensée politique. Hein. L'utilité de l'histoire, pourquoi raconter cette histoire, pourquoi l'enseigner? Dick Howard semble suggérer, et là évidemment c'est tout à fait intuitif, mais semble suggérer un usage thérapeutique de l'histoire de la philosophie politique, hein, qui est de combattre la tentation de l'antipolitique. Et je m'inspirerai simplement d'un autre auteur qui a un usage thérapeutique de l'histoire et qui est Nietzsche. Hein, on sait que Nietzsche distinguait trois usages possibles, avec chacun une thérapeutique sous-jacente, de l'histoire. On peut utiliser l'histoire, on peut avoir un usage antiquaire de l'histoire qui sert à conserver les artefacts du passé et à préserver ces artefacts des prétentions du présent. On peut avoir un usage critique, hein, qui vise à dissoudre l'autorité que les choses passées ont sur nous et donc libérer un peu d'espace, nous laisser respirer un peu. Ou on peut encore avoir un usage monumental de l'histoire, c'est-à-dire, hein, c'est plus mystérieux pour Nietzsche, c'est un usage créatif qui engendre dans l'histoire des nouvelles figures, des archétypes qui nous servent à guider notre action au présent et à comprendre ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, dans la théorie politique, bon, certains d'entre vous qui sont familiers avec ça le savent, on peut facilement associer l'usage, disons, antiquaire à un camp, disons, on peut faire rapidement le camp des Straussiens, le camp des disciples de Léo Strauss, où finalement il s'agit de préserver de façon le plus méticuleusement possible un canon, et surtout l'autorité du canon. Hein, moins d'ailleurs parce que c'est un bassin de sagesse universelle, mais aussi surtout parce que ça permet de justifier la philosophie, ça permet de justifier la vie philosophique. Donc d'une part, donc, un usage antiquaire, ça on sait ce que c'est. Un usage critique, on l'a aussi chez les Anglais, notamment chez Skinner, qui nous déconstruit le canon et en insistant sur le fait que les auteurs se répondent pas nécessairement les uns les autres, les contextes sont hétérogènes, le sens d'un texte est simplement localisé à un moment donné, ce que l'auteur voulait dire devant telle audience, etc. Et donc dans le but effectivement de déconstruire un grand récit, le grand récit de la modernité automatiquement libérale qui pour ces penseurs-là est néfaste, nous prive d'un horizon d'action. Et en pensant à tout ça, je me dis où se situe Dick Howard, et j'aurais tendance à dire qu'en fait il fait un usage monumental de l'histoire de la philosophie politique, en ce sens que, mais c'est tout à fait impressionniste, mais en ce sens où il plaide pour un renouveau, il veut nous convaincre que l'histoire de la philosophie politique est nécessaire pour un renouveau de la démocratie, notamment en dessinant de façon extrêmement stylisée et vivante ce qu'il appelle la tentation de l'antipolitique, à travers des figures comme Platon, qui est l'ombre qui revient constamment sur l'ouvrage, mais aussi à partir des formes plus modernes d'antipolitique que sont, en gros, le marché, la révolution, comme Dominique l'a mentionné, et la tradition, le traditionnalisme. Mais aussi, donc, usage monumental, parce qu'il s'agit de tenir en échec, hein, Dick Howard le mentionne, une autre forme d'antipolitique sur laquelle on aimerait en entendre un peu plus, en fait, qui serait la complaisance, ou Dominique tout à l'heure disait l'évidence démocratique, hein, l'idée que, donc, complaisance, évidence démocratique est particulièrement dangereuse dès lors que la démocratie est pensée comme un régime, justement, de la non-évidence, de l'interrogation, de la remise en question. Et je cite une phrase du livre de Descartes qui va vous donner à réfléchir et je pense qu'il pourrait nous donner une belle porte d'accès, qui, moi en tout cas qui m'a frappé. C'est pourquoi, je la traduis comme je l'ai traduit tout à l'heure sur papier, donc la traduction n'est pas exacte, mais c'est pourquoi ce livre fait retour sur les fondements de la tradition politique occidentale, extrayant du passé des matériaux qui vont permettre le renouvellement d'une pensée démocratique dans une démocratie qui est devenue si sûre d'elle-même qu'elle court le danger de perdre sa capacité à critiquer et à reconnaître ses propres limites. Et donc, ma première question sera en gros, êtes-vous d'accord avec mon impression que vous faites de l'histoire monumentale et où décririez-vous d'une autre façon le sens de votre entreprise? Est-ce que je peux... oui, je peux poser peut-être une autre petite question. L'autre intervention, et là je suis très... En fait, c'est un peu, j'exploite un peu le fait que Dominique ayant déjà exposé les linéaments du livre, je peux peut-être le travailler un peu plus. J'aimerais simplement revenir très rapidement sur votre description de l'antipolitique ou les modalités de l'antipolitique que vous identifiez dans l'ouvrage et ou en tout cas ce qui vous apparaît comme des manifestations distinctes de la tentation, de cette même tentation antipolitique et j'étais porté à me demander ce qu'elles ont en commun ces manifestations. Je pense en particulier un passage très intéressant qu'on trouve, je crois, au début de votre analyse de Adam Smith, où vous distinguez entre, vous sentez le besoin en tout cas de distinguer entre un antipolitique classique ou ancien et un antipolitique que vous qualifiez de moderne. L'antipolitique ancien renvoyant selon vous, trouvant selon vous racine dans, trouvant selon vous une racine philosophique. C'est-à-dire qui est en gros, pour le dire grossièrement, qui est l'appel à normes transcendantes par les philosophes, et l'autre part, un anti-politique moderne qui s'enracinerait non pas dans une philosophie, mais dans une expérience sensible, pré-réflexive, qui serait l'expérience de la société moderne, autrement dit la différenciation sociale avec ce que ça engendre comme bon, l'individualisme, le pluralisme axiologique, la logique d'agrégation des intérêts, etc., etc., etc. Et donc, dans un premier cas, on aurait une antipolitique qui serait de l'ordre de l'arraisonnement de l'oubris politique ou de du désordre démocratique par un ordre normatif idéal. Dans l'autre cas, on aurait donc une mise en scène ou encore une tentative pour faire ressentir aux politiques, aux législateurs modernes de Adam Smith, les résistances ou les limites inhérentes à la matière sociale elle-même, à la matière de nos sociétés qui sont travaillées par des logiques autonomes comme le marché, l'agrégation des intérêts, l'individualisme, le pluralisme axiologique, etc., etc. Et donc, c'est un peu une façon, cette distinction entre les deux antipolitiques, classique et moderne, c'est un peu une façon de recadrer, hein, vous voyez bien la querelle des anciens et des modernes, qui n'a pas seulement été en littérature, mais qui a aussi contaminé la théorie politique. Mais c'est très élégant, mais je me demandais si c'était une bonne idée de projeter cette distinction entre ces deux antipolitiques-là dans une diachronie, c'est-à-dire dans une succession temporelle, dans une différence des temps, et du coup, elle s'exclut potentiellement, ou on ne serait pas mieux de les voir comme deux formes de discours antipolitiques qui peuvent se superposer et qui, du coup, peuvent être aussi indépendants l'un de l'autre. On aurait donc d'un coup une sorte d'antipolitique, et là ça serait peut-être mon interprétation, on aurait du coup une espèce d'antipolitique platonicienne qui serait indissociable de la pratique même de la philosophie politique, hein, du statut même de l'entreprise de la philosophie politique et de son habitus, de la répulsion face au désordre démocratique, la répulsion, la supériorité du philosophe face à la démocratie. On a évidemment le livre La République de Platon, la description de l'homme démocratique au livre 8 nous rappelle tout ça. Mais donc, on aurait une antipolitique proprement platonicienne, proprement philosophique, qui tient à l'habitus philosophique, et d'autre part, une antipolitique qui tiendrait plutôt à la relativisation de la philosophie politique face à des logiques autonomes, à une dynamique autonome, irrésistible, ou en tout cas qui serait conçu comme tel, et qui serait conçu comme sécrétant ses propres normes, le marché par exemple, l'histoire, ou encore le processus de rationalisation, etc., etc., peu importe le nom qu'on donne à cette nécessité. qui fait irruption dans la société moderne et qui relativise le rôle de la philosophie politique et qui sert d'assise à des discours qui sont concurrents à ceux de la philosophie politique, comme celui justement de l'économie politique ou celui de la sociologie ou de l'analyse historique, etc., etc. Donc, on pourrait finalement, en un sens, penser à des formes contemporaines d'antipolitique ancienne, d'antipolitique platonicienne, je ne sais pas si vous voyez, mais et des formes, anciennes de philosophie, d'antipolitique contemporaine ou historiciste, si vous me suivez. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui recouperait pas tout à fait la dichotomie ancien et moderne et qui rendrait un peu plus complexe, un peu plus difficile la tâche que vous nous assignez et que vous assignez à vous-même dans cet ouvrage très ambitieux qui est de renouveler la démocratie à travers l'histoire de la philosophie politique, par l'usage de l'histoire de la philosophie politique. Donc, je pense que ça épuise mon... Ces deux points-là.
Ça épuise votre temps.
Voilà.
Vous avez donc, on va passer immédiatement donc à la fois aux commentaires de Dick Howard et aux réactions à ces commentaires là aussi. Donc Dick Howard, je vous laisse la parole.
Oui, merci d'être venu. Effectivement, c'est un plaisir de venir ici présenter ce livre. Et surtout d'avoir eu des commentaires, des questions si pertinentes. Alors, passons tout de suite aux questions, et puis j'ajouterai en passant. Dominique me pose d'abord la question, pourquoi Hobbes, pourquoi Platon, etc. Après tout, ils finissent par nous amener à faire de l'antipolitique. Je précise, par exemple, chez Platon, très simplement, qu'est-ce qu'il y a d'antipolitique chez Platon? C'est cette idée du philosophe roi, c'est cette idée de l'unité qui s'est réimposée, etc. Au sein de l'analyse platonicienne, si vous reprenez dans la République, par exemple, il y a aussi une analyse tout à fait réaliste, si vous voulez, tout à fait terre-à-terre, tout à fait politique, par exemple, du cycle des régimes. Et si vous prenez un autre exemple, bon, j'en reste dans la lignée platonicienne, soit dit en passant d'ailleurs, j'identifie deux lignées. À partir d'une part de Platon, vous avez Augustin, Saint-Augustin, vous avez ensuite Martin Luther, vous avez ensuite Thomas Hobbes, d'autre part vous avez Aristote, vous avez Saint-Thomas, vous avez Calvin, vous avez John Locke. Mais en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises dans ces deux lignées. Il y a un long chapitre qui m'a peut-être fait le plus plaisir en écrivant ce livre, c'est le chapitre sur les Romains. On parle de la démocratie, mais une des grandes questions qui se pose, aussi bien pour celui qui fait l'histoire de la philosophie politique ou de la pensée politique, mais aussi pour nous, qu'il s'agisse de Québécois, qu'il s'agisse d'Américains, qu'il s'agisse d'Européens, c'est la question du rapport entre la République et la démocratie. Si vous suivez un peu ce qui se passe en France actuellement, vous avez un parti socialiste qui tout d'un coup redécouvre la pensée républicaine et s'en sert pour s'attaquer j'allais dire un gros mot, mais aux idioties, disons, de Sarkozy, qui s'y prête. Mais vous avez ici aussi une question de la pensée républicaine, une tradition québécoise que j'ai apprise il y a longtemps dans les livres de Stéphane Kelly, par exemple. Bon, donc, quel est le rapport entre république et démocratie? Et du coup, j'avais du mal d'abord à trouver des sources. Et quand on fait un cours de l'histoire de la philosophie politique ou de la pensée politique, qu'est-ce qu'on fait avec les Romains? Comment on apprend ça? Et pourtant, toute notre histoire est moderne, est imprégnée par cette pensée républicaine. Mais donc, je disais que entre la lignée platonicienne et la lignée aristotélicienne, bon, il y a les Romains. Ensuite, il y a d'autres phénomènes dans le résumé du livre que faisait Dominique. Elle est peut-être une trop bonne philosophe. Elle faisait une analyse très belle, conceptuelle. Mais en même temps, ce qui, encore un de mes dadas, c'est quel est le rapport entre la pensée et l'histoire. Prenons un exemple que vous connaissez peut-être, mais qui m'a beaucoup frappé. Vous avez... Attendez... Je dis encore une chose sur pourquoi revenir aux grands philosophes. Je parlais de Platon, je prendrai maintenant aussi l'exemple de Saint-Augustin, qui justement introduit la distinction des deux cités, et ce qui compte évidemment, c'est la cité de Dieu. Or, qui c'est qui fait la première théorie de la guerre juste? Qui c'est qui fait la peut-être la plus belle analyse pour son temps et pour jusqu'au temps moderne de du déclin et chute de l'Empire romain? C'est Saint-Augustin. Pourquoi? Parce que justement, insistant sur la valeur, la haute valeur de la cité de Dieu, il ne s'attend rien de la cité des hommes. Et du coup, question des limites dont on parlait, il reconnaît l'existence des limites. Ici, je saute, ça c'est terrible de faire un commentaire sur toutes ces choses très bien, mais je saute un peu. Question des limites, et aussi, attendez, ça m'est passé par l'esprit, je reviendrai. Donc, il y a Rome, il y a Saint-Augustin, oui. Ce que j'allais raconter, c'est l'histoire de Charlemagne. Saint-Augustin, disparaît, la pensée augustinienne domine l'Église, etc. Et puis, de même que la Macédoine va monter contre la Grèce, c'est l'Empire de Charlemagne qui va apparaître. Et vous connaissez peut-être la belle anecdote, et on ne sait pas quelle version compte, quelle version est vraie. Le 25 décembre 800, il y a Charlemagne qui apparaît à Rome, et selon l'anecdote, soit le pape apparaît derrière lui, il lui fout la couronne sur la tête, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors des deux interprétations sont possibles. Soit c'est le pape qui dit cet homme est trop puissant, il faut que je le subjugue sous l'autorité de l'Église, et donc il va me devoir, enfin devoir à l'Église, son pouvoir, sa légitimité, pour revenir à cette idée-là. Soit c'est Charlemagne qui met ça en scène. Bon, donc j'ai des épisodes comme ça. Il y a aussi la querelle des investitures qui met en conflit l'empereur Henri IV et le pape Grégoire VII. Et l'Église va triompher, mais justement, le triomphe de l'Église qui va conquérir son autonomie va aussi libérer l'État du poids du religieux. Ça va être la fin de la doctrine gélasienne. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, je continue. Donc, entre, il y a ces épisodes historiques entre les deux, mais aussi des philosophes qui figurent entre les deux. Et là, je reviens à Augustin et cette question du monumental. J'avais jamais pensé à ça. Et l'idée que je sois ou que j'ai érigé un monument, mais en fait, il y a quand même deux autres figures qui sont un peu entre les lignées, ce sont Machiavel et Jean-Jacques Rousseau, évidemment. Chez Machiavel, il y a justement la question du monument, et dans l'introduction à ses commentaires sur la première décade de Tite Live, il parle de la manière dont ces contrats... Il dit pourquoi, il pose la question de Dominique, en fait. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette vieille histoire de ce... N'est-ce pas? Une histoire qui est écrite... Bon, c'est une histoire de la naissance de la République romaine, écrite par un homme qui vit justement au moment de son déclin. Comme d'ailleurs Aristote avec les Macédoniennes, et il essaie d'expliquer non pas ce que c'est la pensée monumentale, mais quelle est la pensée politique qui justement ne vire ni dans le sens de ce qu'il avait raconté dans Le Prince, ni non plus dans une sorte de pragmatisme. Alors il y aurait donc moi je
Deuxième chapitre dont j'étais très fier et où j'ai beaucoup de mal, c'est de bien comprendre de quoi s'agit-il chez Machiavel, parce qu'évidemment, quand on enseigne, surtout aux débutants, c'est trop facile de faire de Machiavel l'auteur du Prince. Et de dire bon ben voici les mécanismes par lesquels en gros la théorie classique je crois dit que Machiavel, le bon Machiavel, c'est celui qui voulait faire une économie du pouvoir, c'est-à-dire il savait qu'il fallait qu'il y ait du pouvoir quelque part dans toute société, donc je vais voir quelles sont les manières les plus économiques, les plus douces si l'on veut de m'en servir. Il me semble en fait que ce qu'il fait dans ce livre, c'est une sorte de mise en question de l'idée qu'on puisse survoler la scène politique et qu'on puisse contrôler le politique. Et ce qu'il fait quand il reprend titre livre et son monument, ce n'est pas du tout un monument dans le sens que, comme le monument que j'ai vu hier au Québec sur les plaines d'Abraham, où il y a Charles de Gaulle, il y a une statue de Charles de Gaulle qui surveille les plaines d'Abraham, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire, je crois pas que ce soit ce que voulait faire Machiavel. Et puis reprenant enfin Rousseau à cet égard, Rousseau encore qui, quand vous le lisez, il ne cite jamais Machiavel parce que c'était pas cachère à l'époque de citer Machiavel, c'était très mauvais, mais en fait il est évident que Rousseau est un grand lecteur de Machiavel et que Rousseau est un républicain, ce d'autant plus qu'il reprend l'idée chez Machiavel d'une religion civique. Nous, on parlerait peut-être de société civile si on voulait revenir à 89 et ce qui se tramait à l'époque. Et d'autre part, il parle de cette religion civile. Et puis, il ne faut pas oublier que Rousseau, grand républicain, a cette fameuse phrase contre les Anglais, où il dit « les Anglais sont libres au moment où ils choisissent leur député, et ensuite c'est fini ». Rousseau qui dit aussi « si la démocratie était possible, ce serait pour une société d'anges ». Donc il reprend en compte la question des limites. Ça un peu pour répondre à certaines questions. Je reviens à la question de Dominique sur John Rawls. Je lui racontais, on prenait un verre, mais je n'osais pas. J'ai pris du verre Perrier, ou de la version québécoise du Perrier, qui est très bon. Mais on en parlait. Je disais que quand je viens de prendre ma retraite, et comme on avait habité une maison à côté de l'université et que maintenant on habite un appartement à Manhattan, évidemment, il n'y avait pas de place pour beaucoup de choses. Alors, j'ai donné mes papiers à l'université, beaucoup de livres qui sont disparus, etc. Et j'ai trouvé, enfin, un étudiant qui commençait à regarder a trouvé une lettre que m'a écrite John Rawls en 70, je crois. Et en gros, j'avais rencontré Rawls à un colloque quelconque, on avait été ensemble au dîner, et je venais de publier mon premier livre qui était un recueil de textes de Rosa Luxembourg. J'étais donc, moi, de gauche non communiste, etc., etc. Et lui venait de publier sa théorie de la justice. Et cette lettre, dont je ne me souvenais pas du tout, cette lettre me dit en gros « Merci de m'avoir envoyé votre livre, je trouve ça passionnant, je ne vous envoie pas le mien parce que de ce que vous racontez, c'est évident que vous ne le lirez pas. » j'ai avoué, il est vrai, je n'ai jamais lu du début jusqu'à la fin la théorie de la justice. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Et c'est pour ça que je parle de pensée politique et non pas de philosophie politique, c'est que je ne vois pas l'intérêt, franchement, je ne vois pas l'intérêt d'une philosophie normative. Comme vous disiez, Dominique, quand on demande, quelle était la phrase, vous disiez en anglais, what is the value of justice, ou quelque chose comme ça.
What does justice require?
Cette question me semble tellement abstraite. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. D'ailleurs, une autre question qui se trame à travers le livre, c'est le rapport entre morale et politique. Question qui date, comme vous le savez, du moins de chez Aristote, le bon citoyen et le bon homme. Je ne le vois pas. Mais maintenant, Dominique pose une très bonne question. Elle dit, en effet, Rawls a gagné. Rawls qui est social-démocrate.
Oui.
C'est pour ça qu'il s'intéressait à Rosa Luxembourg. Mais dans la réalité, il semble que Nozick a gagné. Et puis Dominique me dit, mais pourquoi ne pas étudier l'économie politique? En fait, dans le dernier livre de Tony Judd, le livre qui vient d'une conférence qu'il a faite, la dernière conférence qu'il a faite, un événement étonnant, vous savez, il avait déjà l'ARLS, on entendait respirer, il avait une machine pour respirer, etc. Il a prononcé cette conférence qui est devenue son dernier livre, ça s'appelle A Requiem, je ne me souviens plus du titre, zut. The Ills of Mankind. Et la thèse, au tout début, il se pose la question, comment se fait-il que nous actuellement, que nous sommes, notre pensée est dominée par trois Autrichiens morts, Hayek, Schumpeter, et qui est le troisième Mises, von Mises. Alors, c'est ce qui est intéressant, et ça va m'amener à une autre thèse. Ce qui est intéressant, dit Tony Judd, c'est que ces trois hommes autrichiens venaient de la social-démocratie et ils voyaient comment l'Autriche, la route vine, est tombée en proie du hitlérisme. Et pour eux, la question du totalitarisme était fondamentale. Et donc, ils ont créé une pensée économique, entre guillemets, qui est fondée sur une représentation libérale de l'homme privé. Il n'y a pas du tout de place pour le public. Et du coup, comment se fait-il qu'on est tombé dans cette crise de 2007-2008 c'est justement que cette pensée économiste était incapable d'aller au-delà du privé. Et de penser le public à cet égard, je vous conseille, du moins de jeter un œil sur les trois numéros de la revue Esprit qui sont parus en début de cette année et à la fin de l'année passée. Trois numéros, trois gros dossiers sur la question de la nature de l'économie de nos temps. Et entre autres choses, je pense que Il y a chez des gens comme André Orléans, par exemple, il y a une idée d'une économie des conventions qui, justement, est une pensée politique de l'économie. Et donc, je crois qu'il se trame des choses, du moins chez certains Français qui cherchent à repenser l'économie politique à partir du politique. Et donc, c'est numéro d'esprit. Mais ça m'amène à une autre thèse, un autre thème, et je vais peut-être m'arrêter. Je regarde, j'ai ma montre là, mais bon. C'est des reflexes, c'est des conventions, diraient les économistes. Pour moi, ce dont on n'a pas parlé, pour moi, ce livre vient de d'autres choses. Pour moi, et je crois que pour beaucoup de ma génération, ce qui a été fondamental, c'était la critique du totalitarisme. Celui auquel je dois le plus dans ma formation, celui qui continue à m'inspirer, c'est Claude Lefort. C'était aussi Castoriadis. Et c'est cette idée, d'où vient le totalitarisme? Et est-ce que, comme disait Dominique, est-ce que ça a été tout d'un coup, est-ce que c'est disparu? Et cette démocratie naïve, cette hubris démocratique l'a remplacé. Je pense que la question du totalitarisme n'est pas disparue. Elle a changé de forme. J'emploie le mot, je ne pense pas que je l'emploie dans le livre, mais récemment, je commence à en parler, c'est des avatars, des figures du politique et de l'antipolitique qui reviennent sous d'autres formes. Et là, ça m'amène à cette question d'Augustin, antipolitique ancienne et antipolitique moderne. Effectivement, l'antipolitique classique se faisait à partir de l'idée d'une transcendance, Mais du coup, il y avait toujours une différence entre les deux domaines, tandis qu'effectivement, avec la modernité, je veux dire, avec, ah là, j'aimerais en parler aussi, Martin Luther, qui est quand même le créateur de la modernité, encore des chapitres qui m'a donné énormément de plaisir, moi qui n'ai aucune formation religieuse, le chapitre qui parle des distinctions entre Luther et Calvin et comment Luther arrive à avoir une pensée politique et qu'est-ce que ça donne. En tout cas, avec Luther, qu'est-ce qui se passe, comme vous le savez, ce n'est plus le Dieu transcendant, c'est le Dieu qui est intériorisé, c'est le Dieu qui agit par la grâce auquel je ne peux que croire sans jamais avoir l'assurance, enfin là le Weberien prend des notes, que, n'est-ce pas, et du coup ce luthérien, c'est justement l'individu moderne. Or ce Luther, ce Martin Luther, comme vous le savez, bon, il y a la concile de Worms, il y a la réforme qui se met en œuvre, les écrits de Luther se répandent un peu comme si on avait l'internet, parce que justement il y avait l'imprimerie qui a été inventée, et Luther a été le créateur de la langue allemande, mais du coup on entend Luther, mais on l'entend d'une certaine manière anti-politique, c'est la révolte des paysans, n'est-ce pas, et Luther va prendre le côté des princes. Parce que c'est l'anarchie, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais du coup, comme vous le savez, la répression était féroce, sanglante, et Luther dit mais bon Dieu, je voulais pas ça. Comment je peux comprendre les devoirs d'un chrétien en politique? Bon, il y a des textes que j'analyse, je vais pas vous faire écouter tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement pour s'assurer de l'autonomie de sa religion nouvelle, Luther va donner le pouvoir à l'État. Et comme vous le savez, enfin, Augustin le sait très bien, Plessner et tout ça, la nation retardée, ça va devenir un peu le fondement de ce qu'on va retrouver dans l'Allemagne nazie, ce Gehorsam, cette obédience, etc., à l'autorité. Or, on n'accepte pas ça, il y a Calvin qui va intervenir, Calvin qui va créer une autre vision. Quelle est la vision calviniste dans deux mots? C'est chez Calvin, il y a toujours la réforme, il y a toujours l'individu, mais chez Calvin, l'idée c'est que c'est dans ma conscience que justement se rencontre la voix, grand V, et l'individu, etc. Et à partir de cette idée de conscience, Calvin va élaborer l'idée, bon, il va dire, c'est très bien, le bon Dieu, la voix grand V s'exprime chez moi, or je sais que moi, j'ai une expérience, j'ai un corps, je suis pas transparent à la parole de Dieu. Donc il va falloir il va falloir créer une sorte de église, on pourrait dire aujourd'hui congrégationaliste, où justement il y aura participation. Et Calvin invente quoi? Il invente ce qu'on connaît nous comme le système des checks and balances, n'est-ce pas? L'inattendu. Mais alors pour antipolitique ancienne et antipolitique moderne, chez les modernes justement, il n'y a plus cette transcendance, et du coup l'antipolitique moderne peut devenir totalitaire, tendanciellement totalitaire, non pas seulement dans les formes totalitaires que nous avons connues, mais aussi, encore le mot avatar, il y a de nouvelles avatars qui peuvent apparaître. Et là, je vais terminer parce que je crois que j'ai trop parlé, mais il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir. Quand ils vont présenter Dominique, elle a travaillé sur Hegel. Et moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur Hegel. Et ce qui me dérange le plus dans mon propre livre, c'est ça la question que je me pose, c'est qu'il y a... Il y a un réflexe de vieux hegelien. D'une certaine manière, si on schématisait ma pensée, on dirait ceci, on dirait, il y a le politique. D'abord, d'où vient le politique? C'est tout simplement que nous qui sommes dans cette salle, nous ne sommes pas une société. Pour que nous devenions une société, il faudrait qu'il y ait une dimension politique, c'est-à-dire qu'on partage... Peut-être qu'on est d'une certaine manière une société politique dans le sens qu'on est là pour une raison partagée, mais en gros, il faudrait qu'il y ait la dimension du politique pour qu'il y ait société. Sinon, ce n'est qu'une agglomération d'hommes et femmes qui sentent ensemble. Donc, il faut qu'il y ait le politique. Le politique crée un cadre au sein duquel la politique ou les formes de la politique deviennent légitimes, ou le conflit, pour revenir à ça, devient légitime. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que l'antipolitique peut intervenir de deux façons. Soit des intérêts particuliers se prennent ou arrivent à se faire prendre pour des représentants du bien commun, du politique, soit que le politique déchoit. C'est-à-dire que le politique devient un intérêt particulier, entre autres. Soit dit en passant, les deux possibilités existent si on allait faire une analyse de la situation américaine chez Obama, mais peut-être dans le débat. Mais alors, le dilemme hegelien, c'est qu'on aurait tendance à dire, tiens, il y a le politique qui crée des instances de la politique, qui dégénère en antipolitique, et on s'attendrait à ce que, par la négation de la négation, il y ait une nouvelle figure du politique qui renaîtrait. Là, c'est la critique que je me fais. J'ai essayé d'éviter ça, mais c'était constamment présent chez moi. Et je suis certain qu'un méchant critique quelque part va m'attaquer sur cela. Mais je vous laisse m'attaquer. Vous attaquez à nous tous.
Bon, donc pendant que vous préparez vos questions là, sur un livre que vous n'avez pas lu, mais que ne vous en faites pas, il est paru hier, donc c'est seulement que nous deux auteurs. Moi, j'aurais quand même une petite question là, à écouter vos commentaires puis vos réponses. Il me semble que vous avez, qu'on vous dit l'histoire de la pensée politique, c'est l'histoire de l'antipolitique. Et l'histoire des pratiques politiques, c'est l'histoire des pratiques antipolitiques. Est-ce qu'il existe une pensée politique? Et est-ce qu'il existe des pratiques politiques qui ne sont pas antipolitiques? Et, ou est-ce qu'il en existe? N'avez-vous démontré dans votre livre?
Prenons un exemple. L'économie politique chez Adam Smith. Ce qui se passe, on est dans la modernité, donc il n'y a pas de transcendance. Qu'est-ce qui se passe chez Smith? L'économie politique devient la forme prise par le politique. Et donc, la politique, au sein de l'univers politique défini par Adam Smith, ce serait justement ce serait ce que nous vivons de nos jours, c'est-à-dire la lutte entre l'oligarchie et le peuple, en Amérique en ce moment, c'est plutôt une plutocratie, mais bon. Donc, ça peut arriver. Chez les anciennes, il n'y avait pas ce danger, mais il y avait d'autres dangers, effectivement, si on est pris dans la vision du politique chrétien ou classique, etc., il y a d'autres problèmes. Donc, peut-être une dernière chose, d'ailleurs. Après 89 et cette démocratie naïve, l'autre chose qu'on apprend en faisant l'histoire de la pensée politique, c'est on apprend qu'il y a du nouveau, de l'inattendu. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire avec Charlemagne, avec la querelle des investitures, etc. Il y a le nouveau. Et comment est-ce qu'on identifie le nouveau? Prenons un exemple. J'ai dit que je n'allais pas parler d'Obama, mais on pouvait penser je l'ai écrit par ailleurs, on pouvait penser que Obama représentait, l'élection d'Obama représentait ce que l'Amérique, ou les États-Unis si vous voulez, aurait aimé être. Et que d'une certaine manière, c'était un renouveau du politique. Or, ce que nous vivons, ce que, du moins moi, c'est comme ça que je le vis, c'est que non, j'ai pris mes vœux pour la réalité. Il faut revoir tout ça. La messe n'est pas encore dite, mais bon. Donc.
D'accord. Oui.
Il y a quelqu'un derrière là.
Ah oui, il faut l'allumer peut-être. Hein. Tu vas appuyer sur un petit bouton qui devrait être... Ça marche, ça? Oui, ça va. Vous avez fait...
Ça marche? Ah, OK.
Vous l'avez appuyé sans vous en apercevoir.
Merci beaucoup. J'aimerais ramener le débat un peu par terre parce que c'était un peu dans le dans la tour d'ivoire, pour moi, de toute manière. Moi, j'aime les exemples concrets. Je veux savoir... En regardant qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on constate que la démocratie représentative ne marche plus. C'est dysfonctionnel, ça ne marche pas. Les gens sont dans la rue. Il y a Harper chez nous qui est en train de détruire le Canada. Il y a au sud d'Obama, comme vous avez dit, un espoir extraordinaire qui est devenu une déception terrible parce qu'il fait tout ce qu'il a fait Bush, il fait la même chose. Alors, je me demande, selon vous, là, comment est-ce qu'on sort de ce problème mondial dont nous vivons aujourd'hui?
Votez pour moi. Non, je crois que l'avantage de la structure que j'essaie de proposer, c'est que justement, c'est pas tant la démocratie représentative qui est le problème, c'est les dérapages de la démocratie démocratique. Je crois que c'est ça qui fait une grosse différence. Et vous regardez, j'ai dit juste en passant que les États-Unis sont devenus une plutocratie, mais c'est pas faux. C'est que certains, avec l'argent, avec le contrôle des médias, Fox et tout ça. Mais il ne faut pas dès lors désespérer. Il ne faut pas dès lors dire que la démocratie représentative nous amène le pire des mondes possible. Il faut plutôt repenser cela. Ou prenons la France où le dérapage est étonnant chez Sarkozy. Mais justement, le renouveau du républicanisme est un phénomène assez intéressant qui d'ailleurs, bon, je ne dis pas que c'est une solution. Je dis qu'il y a une mouvance qui n'est pas limitée au Parti socialiste, qui concerne aussi l'UMP, etc. Et que donc, encore une fois, mon idée, c'est que il faut distinguer donc entre dérapage et corruption, si vous voulez. Et là, la distinction est assez importante. Je raconte une anecdote que
ça j'aime
beaucoup.
Pourrait nous intéresser à savoir la différence entre la corruption et le dérapage.
Oui. Prenons. C'est Machiavel. C'est Machiavel qui nous aide à ça. Mais pour l'anecdote, vous savez, il y a quatre documents qui ont une actualité aujourd'hui, qui ont été publiés en 1796. Et ça fait un bon jeu lors des cocktails. Ces quatre documents, personne normalement ne se souvient pas, mais c'est évidemment la Déclaration d'indépendance de l'Amérique, c'est la publication de La richesse des nations de Adam Smith, c'est troisièmement le fragment sur l'utilitarisme de Bentham, et le quatrième et le plus important, et c'est là pour vous madame, c'est le premier volume de Gibbon, Le déclin et chute de l'Empire romain, c'est-à-dire là où justement la corruption va amener la chute. Comment définir c'est peut-être là où justement nous on a à intervenir dans la vie politique.
J'avais André Courtin. Oui. Après vous. Ok, oui. Après, ce sera.
Bon, évidemment, je suis excusé de ne pas avoir lu les livres. Enfin, donc, je m'appuie sur les brillants exposés qui ont été présentés. Mais j'ai une question toute simple. La réponse se trouve peut-être dès la première page du livre. La question, c'est cette opposition entre politique et antipolitique, est-ce qu'elle ne relève pas d'une fausse conception de l'unité? Parce que donc là, on a présenté, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est vraiment exposé, d'un côté l'unité, bon, qui en fait aboutit à l'antipolitique, et de l'autre l'unité qui se concilie la diversité. Mais est-ce qu'il faut vraiment essayer de penser le politique en termes d'unité? Et évidemment, on dira, il me semble que c'était dit dès le début, mais c'est évident, puisque le politique, c'est le vivre ensemble. Oui, mais le vivre ensemble, ça veut dire quoi? Là, je lisais dans le Devoir d'hier qu'il y a 1 milliard d'habitants qui vivent dans des bidonvilles. Alors, le vivre ensemble, bon, c'est une image un peu facile, j'en conviens, mais le vivre ensemble, ça veut dire quoi? Alors, mais plus fondamentalement, c'est la question de l'unité. L'unité, est-ce que c'est quelque chose qui est constitutif du politique? Ou bien, justement, pour réfléchir sur le politique, il faut questionner l'unité.
C'est bon?
Bon, de remarques d'une part, quelle conception d'unité? Moi, c'est mon côté hegélien. Je dirais que justement, l'unité consiste à la fois avoir présent une pluralité et en même temps trouver un cadre dans lequel cette pluralité puisse coexister sans que ça dérape, sans que ça devienne de l'anarchie. Et ça m'amène au bidonville et autres phénomènes pareils. Si on ne vit pas dans une anarchie, s'il n'y a pas, si le mécontentement n'explose pas, c'est qu'il y a quelque part une légitimité. On a la belle distinction, je crois, dans toutes nos langues, entre puissance et pouvoir. Et le politique est le moyen par lequel la puissance, donc, devient le pouvoir et devient légitime. Et comme je dis, l'un des mots intraduisibles du français en anglais, c'est le mot déchoir. Et cette idée d'une déchéance, et on revient à la corruption, une fois qu'il y a déchéance, le politique n'est plus capable d'assurer cette légitimité, et du coup, on commence à apercevoir des phénomènes justement, qu'on pourrait dire anarchiques. Et les conflits, il y a des conflits légitimes, il y a des conflits qui sont des guerres, n'est-ce pas?
Oui, monsieur.
Bonjour, voilà, je suis chargé de cours en gestion administration. J'étais étudiant au doctorat en scolarité, mais j'ai arrêté. Justement parce que je sentais que je viens de comprendre, parce que j'avais une pensée peut-être antipolitique. Et je voudrais que vous me la confirmiez aujourd'hui. C'est que je boguais, je bloquais, et il n'y avait personne qui m'aidait là-dessus. Mais j'ai fait quelques lectures et j'ai réalisé que les intellectuels disaient que la raison formelle ne peut pas instituer. Parce que instituer relève de l'origine, relève du croire, donc d'un jugement moral. Et je me suis dit que la philosophie politique se devait, elle avait la responsabilité d'assumer cette réalité et d'assumer son moment hétéronome, le moment hétéronome de la raison philosophique et le moment hétéronome de la raison politique, et donc d'assumer l'enjeu ontothéologique. Et si tel était le cas, elle se devait de remettre en cause le statut, par exemple, de la valeur, le statut du réel, le statut de la raison et du politique. Et le statut de la valeur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous dit la raison formelle? Ce n'est pas la norme qui libère. Non, ce n'est pas le croire qui libère. Ce qui libérerait, c'est le vide. Puisque le vide est la vérité de la nécessité rationnelle de la science. C'est le savoir qui nous libère. Mais moi, dans ma tête, j'arrivais pas à fonctionner quand j'entendais ça en tant que musulman, en tant qu'arabe, et qui respecte la raison critique et qui veut comprendre. On me dit, non, prends le principe d'individuation, place-toi dans une conscience vide, essaie de t'arracher à toi-même, là tu vas être moderne. Je me suis dit, quand je m'approche de la norme, est-ce que je suis antipolitique? Parce que dans ma tête, moi, ce qui institue, c'est une nécessité morale. C'est-à-dire, on peut poser une détermination du concept moral qui nous oblige moralement, mais en même temps, on peut préserver l'indétermination de l'acte moral. C'est-à-dire, il y a une possibilité. Et ce ne sont pas nécessairement deux propositions opposées. Ça veut dire que c'est une nouvelle théorie de la valeur dans le sens suivant. La première proposition interpelle le monde tel qu'il doit être et interpelle ma conscience, mais ne m'oblige pas de fait. Elle m'oblige de droit, mais pas de fait. Donc on peut avoir une vérité, des intellectuels, on va discuter sur la nature humaine, sur le politique, mais elle m'obligera moralement seulement, mais pas de fait. Ça veut dire que ça préserve mon libre arbitre. Donc pour moi, c'est une possibilité qui est là. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est être antipolitique que adhérer à cette intuition? Deuxième chose, le statut du réel. Est-ce que il n'existe que la réalité sensible, matérielle, psychologique? Il n'y aurait pas une réalité extérieure, un monde, comme dirait Kant, le noumen, qui ne suffit pas seulement de penser, mais qui aurait une propre causalité? Sinon, il y aurait contradiction. Pourquoi? Pour protéger l'objectivité du monde. Pourquoi? Pour protéger la référence transcendantale. Pourquoi? Pour préserver les lieux ontologiques de la synthèse, c'est-à-dire la possibilité de fixer des contraintes objectives a priori pour protéger l'être humain et la société du capitaliste. Est-ce que je suis anti-politique de poser cette réalité, de dire attention au monisme ontologique du fait de réduire le monde au sensible à l'apparence? Point. Troisième, le statut de la raison.
Il ne faut pas en poser trop parce qu'il ne pourra pas les
répondre. Je termine juste la logique. L'arrière, c'est la raison. Est-ce que la raison n'est qu'opératoire ou est-ce qu'on peut penser à une raison principielle? Et le politique, est-ce que le politique relève de l'instrumentalité et de la régulation ou doit-il poser les questions relevant de l'ensemble de l'homme pour préserver une forme de société, un mode d'existence? Sinon, il participe de la dissolution de la référence transcendantale et donc la fin de l'homme et de la cité va être définie par le nihiliste et le capitaliste. Alors, suis-je antipolitique? Ma pensée est-elle menace le bien commun?
Merci beaucoup.
Il faut que vous repêchiez cet homme qui a une pensée assez intéressante. Comment vous l'avez perdu là?
Moi j'étais perdu.
De toute façon, s'il est antipolitique, il n'est pas le seul.
Non, mais je vais dire deux mots à ce propos. D'une part, pourquoi se poser la question, est-ce que je suis antipolitique? Je ne peux pas créer un cadre au sein duquel nous vivrons. Il s'agit plutôt, selon moi, de reconnaître comment nous vivons ensemble et de faire en sorte que nous comprenions ce que, entre guillemets, spontanément, mais évidemment avec les guides de la presse et tout ça, mais de comprendre les cadres au sein desquels nous vivons, et éventuellement, pour revenir à la question de madame, de voir en quoi il y a perversion de ces normes-là. Et d'autre part, pour ce qui est, vous avez employé le mot « acte moral », je ne suis pas sûr qu'il puisse y être des actes moraux, car pour agir, il faut que nous soyons au moins trois, me semble-t-il. Pas deux. Un rapport de un à l'autre, c'est un rapport effectivement qui pourrait être moral. Mais une fois qu'il y a la tierce personne, on entre, me semble-t-il, dans le domaine du politique. Parce que, pourquoi? Parce que quand on est trois ou plus que trois, il y a toujours, je regarde madame, et lui va me plonger un couteau dans le dos. Donc il faudrait qu'il y ait un cadre qui l'empêche d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée d'acte moral me semble problématique. C'est à peu près comme ça que j'essaierai de répondre.
D'autres commentaires?
Pour donner aux deux autres la chance, la possibilité de répondre.
en fait, peut-être que j'aurais une question pour Dick Howard à partir de la question qui a été posée par madame. Au fond, la dernière expérience politique démocratique d'une république démocratique dont le livre parle, c'est l'expérience américaine, théorisée à travers le Federalist. Et à la question de madame qui disait, mais est-ce que la démocratie représentative n'est pas en pleine déliquescence aujourd'hui dans le monde? J'ai l'impression que le livre me donne, c'est que sur le plan des institutions qui peuvent nous permettre de vivre ensemble la diversité, vous semblez penser que quelque chose comme le Federalist nous donne les ingrédients fondamentaux de la solution. Et que donc c'est pas tant de nouvelles formes que vous attendez qu'une régénérescence de formes qui ont été corrompues. Est-ce que vous pensez que finalement ce qu'il faut, c'est ça c'est un vieux lieu commun de la pensée républicaine, refonder la république et relire le Federalist et essayer de voir ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui dans le contexte actuel, ou si vous pensez qu'il y a vraiment... Et donc, d'où votre réponse à madame, qui était la démocratie... Il ne s'agit pas de laisser tomber la démocratie représentative, mais essayer de la faire revivre. Ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il est pensable de penser de nouvelles formes?
Je m'explique très brièvement. Qu'est-ce que je trouve dans le Federalist, comme vous le savez, c'est l'analyse proposée par les grands défenseurs de la Constitution de 87. Et principalement, ce que j'y trouve d'important, c'est le numéro 63, où il est question du Sénat. Et les auteurs se posent la question, mais si on vit en démocratie, s'il y a l'égalité, mais qu'est-ce que ça fait un Sénat? Un Sénat, ça représente l'élément aristocratique, mais on n'en a pas, soi-disant. Bon, alors, il y a beaucoup de réponses à cela, mais la réponse principale, c'est que il y a une différence entre la démocratie représentative moderne et la démocratie représentative classique. Chez les classiques, le peuple devait être incarné dans ses représentants. Il y avait, autrement dit, le mandat impératif. Tandis que, disent les auteurs, au contraire, chez nous, il n'y a pas de peuple un et uni qui puisse être représenté. Du coup, continue-t-il, toutes nos institutions, non seulement le Sénat, mais toutes nos institutions sont représentatives dans ce sens qu'aucun ne peut prétendre incarner le bien commun, incarner la voix du peuple, etc. Et du coup, et c'est là où on retrouve les Romains, on retrouve Polybe et son idée d'institution conflictuelle. Du coup, il y a toujours conflit entre la Cour suprême, les autorités des États fédérales, le Sénat, la Chambre, l'exécutif, etc. Et d'une certaine manière, oui, je dis qu'on pourrait réécrire l'histoire des États-Unis comme une lutte entre ces institutions. Or, malheureusement, l'expérience montre aussi que ça ne marche pas tout le temps. Je passais ce matin, cet après-midi, je passais devant le Hudson Bay, là, le grand magasin, et voilà que je trouve une plaque à poser sur un mur qui dit « Sur ce lieu avait résidé en 1867 l'ancienne présidente de la Confédération sudiste, Jefferson Davis ». Qui était bien accueilli ici à Montréal. Bon, donc, vous savez, nos institutions ont donné lieu à une guerre civile. Donc, c'est pas nécessairement que ce soit ça, de même que les pères fondateurs disaient Polybe et autres, mais c'est cette idée que le peuple n'est incarné nulle part. Et donc, que, comme on disait en 68, la lutte continue.
Et la démocratie partout. En Bolivie, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la démocratie participative?
Je pense à la fois du bien et en même temps, je ne vois pas en quoi ça puisse justement devenir un régime politique, devenir une forme de vivre ensemble. je crois que Porto Alegre et d'autres expériences là représentent une tendance qui est présente dans nos sociétés, mais qui n'a pas réussi à se donner une forme politique, dans le sens du politique. Ça reste à déterminer, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça existe.
Bon, mais sur ça, je pense qu'on va remercier Dick Howard, remercier et aussi Dominique Leda et Augustin Simard. Je rappelle que demain après-midi à 14h, Dick Howard présentera lui-même son livre à une conférence qui aura lieu.